un balado de 37e Avenue.
Le dimanche 26 juin 2022. Bon dimanche, Steve Proulx dans vos oreilles pour ce deuxième épisode du balado de la culture médiatique. Cette semaine, on s'est pas mal promené sur les plateformes pour trouver de quoi nourrir nos yeux. On en discute avec ma complice de sofa. Plus, une nouvelle plateforme littéraire vient de voir le jour et on en parle avec l'une de ses mamans. Bon dimanche, chérie.
Bon dimanche, content de te voir, ça fait longtemps.
Un bon petit rendez-vous, notre petit rendez-vous dominical, mm-hmm. où est-ce qu'on parle de notre semaine télévisuelle.
Oui, qui fut plutôt ordinaire cette semaine.
C'était pas une semaine qui va passer aux annales.
Non, exactement.
Cela dit, c'était quand même la fin de cette émission.
Coupe-toi pas!
T'es je me suis coupé, ouais. Ah,
tu vois, c'est coupé.
Ça, c'est le truc le plus dangereux. C'est extraordinaire, mais moi, j'en ai vu du monde super avec ça.
C'est très étonnant.
Quand est-ce que dans les chefs, on va enlever les foutues mandolines?
Non, mais c'est vrai que c'est... Écoute, la saison au complet, je pense que chaque épisode, il y avait quelqu'un qui se coupait... un doigt.
Non, ça gicle le sang. Moi, c'est ce que je déplore un peu. On parlait évidemment de l'émission Les Chefs, 11e
oui.
saison.
Oui, depuis 2010 quand même.
Mm-hmm. Qui vient de se terminer. C'est Jean-Christophe qui a gagné, pour ceux qui suivent cette série. Jean-Christophe qu'on peut, je ne savais pas, mais on peut... Il est sous-chef au restaurant Foxy. Fait que si on veut goûter sa cuisine, on peut aller là. Et puis, regarde, ce sera peut-être...
Gars, c'est un petit rendez-vous.
Un petit rendez-vous, un autre rendez-vous cet été. Mais non, c'est un peu ce que je déplore. J'aime beaucoup les chefs. Je trouve ça intéressant. Cette année, on a fait une belle part aussi aux produits québécois.
Oui.
Avec la nouvelle coach.
Colombe Saint-Pierre, en fait, qui est extraordinaire. Là.
Extraordinaire. C'était une découverte pour toi, je pense.
Écoute, moi, je suis allée lire sa vie après.
Bon.
J'ai trippé sur elle. Je vais aller au BIC, je vais aller manger à sa cantine, tout ça. Donc, ouais.
Il y a un documentaire sur elle, Colombe Sauvage, mm-hmm. qui est disponible à ici, tout.tv. Donc, oui, c'est une belle découverte, Colombe Saint-Pierre, qui a amené, j'ai l'impression, cet intérêt pour les produits québécois, les produits du terroir. Mais ce que je déplore de cette émission-là, c'est que je trouve des fois que la compétition prend un peu le pas sur... la bouffe. Tu sais, c'est rendu... Écoute, c'est tellement stressant, cette émission-là.
Écoute, moi, j'ai vraiment l'impression d'écouter 24 heures.
Ben oui.
J'ai le cœur qui bat, j'ai de la misère à respirer. Je suis comme, voyons donc.
Okay, ben, c'est une grémolata que vous faites, là, pas une chirurgie à cœur ouvert.
Non,
là. C'est ça. Je veux dire, on sauve pas du monde, là. C'est de la bouffe, là. Non, si j'avais un conseil à donner pour l'an prochain, ce serait peut-être... calmons-nous sur le stress. C'est pas si important que ça, là. Je trouve, pour moi, la compétition...
Non, puis en tant que spectateur, c'est plus ça qu'on retient. C'est
ouais.
dommage, en fait.
Oui, c'est vrai.
Je me rappelle peu des repas. Je me rappelle, par contre, d'avoir beaucoup stressé.
Puis de s'être beaucoup coupé
oui, exactement.
À la mandoline. Prochain extrait.
Ce n'est pas chez vous, ici.
Mais de quoi vous parlez? Si, c'est l'Umbrella Academy.
Ceci est la Sparrow Academy.
Merde.
Umbrella Academy, donc saison 3, série Netflix. La saison 1 est en 2019, 2020 pour la saison 2. Et deux ans plus tard, on a la saison 3 qu'on attendait quand même, pas juste nous, en fait, tout le monde.
Mm-hmm. J'étais content de retrouver l'univers.
Oui, les personnages, tout ça. Il faut souligner hein, que c'est la première fois qu'on voit Elliot Page, connu là, avant pour Ellen Page, là, mm-hmm. depuis sa transition de genre de 2020.
Oui, on en fait une place aussi dans la série, c'est ce qui est intéressant. Bon, au début, je trouvais ça un peu plaqué. Là. J'avais l'impression que, bon, évidemment, les scénaristes... Ils ont dû se creuser le coco parce que le personnage de Vania était une femme, puis là, ne joue plus de femme.
Ouais,
donc, il a fallu vraiment intégrer cette transition-là dans le scénario, et on le voit. Puis on voit aussi qu'il y a comme une sorte de métaphore. Hein. On remarque que tous les personnages... En fait, là, on est rendu à l'épisode 3.
Mm-hmm.
Les personnages se font couper les cheveux. À chaque épisode, Elliot Page s'est fait couper les cheveux, changer de tête. Un autre des Umbrella Academy aussi.
Oui, il y a trois personnages qui se font couper les cheveux.
C'est comme une métaphore qui est en train de nous suivre. Donc, j'ai l'impression que cette transition-là est en train de contaminer aussi le reste de l'Académie. Mm-hmm. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je veux mentionner quelque chose. Umbrella Academy, c'est presque une série canadienne. Hein?
Ah oui?
Ben oui. Le créateur, c'est Steve Blackman. Il avait fait aussi Fargo, la série Fargo.
Oui.
Qu'on avait regardé un peu. Bon, c'est un Canadien. Elliot Page, originaire d'Halifax. Tout ça est tourné en Ontario, à Hamilton, dans la ville d'Hamilton principalement. Plusieurs comédiens qui sont Canadiens. Donc, c'est vraiment une série où est-ce que c'est un univers original qui vient de chez nous.
Oui, puis ce qu'on se disait, hein, tu sais, comme toute saison, c'est un peu difficile. Tu sais, ça fait quand même 2 ans qu'on attendait la saison 3. C'est difficile de se remettre dedans. Il s'est passé beaucoup de choses à la fin de la saison 2. Donc, moi, personnellement, ben toi aussi, là, c'est ce qu'on se disait. On vous conseille fortement là, d'écouter les deux derniers épisodes de la saison 2 avant d'embarquer dans la saison 3.
Oui, parce qu'on est perdus.
Ben nous, on était perdus. Peut-être pas tout le monde, mais...
Il y a tellement de sous-trames. Chaque personnage a son arc dramatique un peu. Puis des fois, on replonge dans des choses qu'on a complètement oubliées. Donc oui, ça vaut la peine de se taper quelques épisodes précédents pour se remettre dans le bain. Sinon, on risque d'être perdu un peu. Prochain extrait.
On est dans les pires conditions.
Ça, c'est dangereux.
Des fois, on peut avoir 200 000 kilos d'explosifs sous nos pieds.
On n'a pas droit à l'erreur. Je suis content de rentrer le matin, je suis content d'en sortir le soir.
La docu-série Fermont, en fait, disponible sur Crave. 10 épisodes sur la... Bon, qui explique sur la ville, le sujet de la ville de Fermont, mais plutôt sur les travailleurs et les travailleuses de la mine de fer du Mont Wright.
Oui, c'est pas une série qui est... Ben oui, c'est récent, mais ça a commencé en janvier à Canal D. Ça a été diffusé à Canal D. Nous, on ne l'avait pas regardé, mais là, cette semaine, on cherchait un peu quoi regarder. Mm-hmm. Puis on est tombé là-dessus. Moi, j'étais quand même agréablement surpris par cette série que je trouve intéressante. C'est comme vraiment un nouveau monde complètement différent de ce qui se passe ici dans Rosemont-Petite-Patrie.
Oui, puis moi, c'est une ville qui m'a toujours un peu fascinée. Mais c'est sûr que, tu sais, au fil des épisodes, je trouve qu'on parle beaucoup de la mine, des travailleurs à la mine. J'aurais voulu qu'on me parle de la ville, du mur écran, du centre d'achat dans le mur écran, des appartements, du quotidien de ces gens-là. On n'en parle pas du tout, en fait.
Ouais, je dirais 10 épisodes, c'est quand même un peu long, là. C'est-à-dire, nous, on a regardé peut-être 7 ou 8, là, mais à un moment donné, ça revient un peu « more of the same », là. C'est bon, c'est des gens qui travaillent dans une mine, c'est difficile, c'est dangereux, bon, on comprend.
Mais de toute évidence, il y a un public parce qu'il y a une saison 2 qui s'en vient. Le tournage se fait cet été.
Fermont, bonne série, un peu long, c'est quand même une belle découverte, je trouve.
In this series, we'll dig deep into our pets' inner lives to discover the secrets they've kept hidden until now.
Ah, petit bonheur cette semaine. Écoute, ben vers la fin de la semaine, on est tombé là-dessus dans la peau de nos animaux, une docu-série de 4 épisodes sur Netflix. Écoute, c'est simple, c'est sans prétention. On apprend certaines choses sur nos animaux de compagnie. On voit un chien sauter en parachute avec son maître, des rats faire des courses de voiture. On voit aussi un lapin qui peint.
Mm-hmm.
Quand même assez fantastique.
On essaie de nous expliquer la science derrière ces drôles de comportements de nos animaux de compagnie. Bon, c'est une série avec une bonne dose de... Oh,
c'est clair.
C'est cute. Moi, j'ai beaucoup aimé les perroquets.
Oui, beaucoup.
Il y a aussi le... Attends, on a un animal que j'avais beaucoup aimé. Ah, le chien qui parle. Il y a un chien qui parle avec des boutons.
Oui, avec des boutons.
Moi, j'ai l'impression que la plupart de ces animaux-là qui sont dans cette série-là ont sans doute été popularisés par Instagram ou TikTok. C'était des animaux qui faisaient des choses extraordinaires. Puis on les a découverts comme ça.
J'ai l'impression que c'est ça aussi.
C'est un peu
là.
Ce qui s'est passé. Bon, c'est une série. Écoutez, c'est une série sympathique.
Ben oui. Écoute, puis il faut le dire, là, certains aspects sont plutôt incroyables. Il y en a d'autres qui sont assez mollo, là, comme justement le lapin qui fait de l'art. Bon, c'est pas très, très... Écoute, il y a un pinceau dans la bouche, puis il tourne, il twist, puis ça fait...
Ça relève plutôt du hasard.
Exactement.
De l'intention artistique.
Ouais, mais je pense que c'est une belle série. Une journée de pluie, avec les enfants, des choses comme ça, c'est quand même...
Une autre petite série sans prétention.
Je ne suis pas habitué à rencontrer des célébrités.
Je ne suis pas une célébrité.
Mais si tu l'es, t'es la femme trompée la plus connue de la planète.
Ça vient de sortir, c'est sur Apple TV+. Loot, le gros lot en français, avec Maya Rudolph. Bon.
Ben écoute. On a regardé un épisode hier.
Disons un peu ce qui se passe dans la série, là.
Ben écoute, elle est. Son chum, il est multimilliardaire, dans le fond, tu sais. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle se fait tromper. Elle quitte son chum.
Il se divorce
et elle...
dans le règlement de divorce, elle se retrouve avec 87 milliards de dollars. C'est une comédie avec Maya Rudolph. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle était dans Saturday Night Live. Mm-hmm. On a notre segment. Là. Stop ou encore cette série?
Moi, honnêtement, stop.
Ouais.
Ben, je la trouve pas. Tu sais, elle me fait ni chaud ni froid, en fait.
Hmm.
Ouais.
Si vous aimez Adam Scott,
oui.
Découvrez-le plutôt dans Dissociation, Severance.
Qui est une excellente série.
Toujours sur vraiment. Apple TV+, une série réalisée par Ben Stiller qui est terminée. Donc, vous n'avez pas à attendre chaque épisode chaque semaine. Donc, vous pouvez l'écouter en rafale. Mm-hmm. Ça a été vraiment un petit coup de cœur cet hiver, cette série-là. Moins. Pour Loot, on va regarder ailleurs. Dernière série de la semaine, ça c'est moi.
Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission. To explore strange new worlds. To seek out new life. And new civilizations. To boldly go where no one has gone before.
Là, je vois que je tombe dans ta table. Juste l'extrait, t'es en train de t'endormir.
Je suis en train de mourir.
On vient d'entendre. C'est Star Trek Strange New Worlds. C'est sur Crave. La saison 1 vient tout juste de sortir. En fait, c'est une espèce de reboot. C'est pas un reboot, là. C'est une nouvelle série Star Trek, mais qui se déroule avant la série originale avec William Shatner et tout le tralala. Et donc, ce que j'aime, c'est que justement, dans l'intro, ils ont repris le générique du début de la série originale, mais ils l'ont mis un petit peu à la sauce plus moderne. Et il y a des petites choses comme ça. Bon, moi, je ne suis pas un grand, grand fan de Star Trek. Je pense que tu l'es plus que moi, hein, Isabelle?
Oui, vraiment. J'ai tout vu, tout.
Je me cherche des gens pour parler de Star Trek, mais j'en trouve pas. Non, mais je ne suis pas un grand fan de Star Trek, mais j'aime les petits détails comme ça. Par exemple, dans la série, dans cette série-là, il y a des personnages qu'on connaît, comme Spock. Il y a aussi le frère de Captain Kirk, qui est incarné par un comédien qui s'appelle Dan Janot. C'est aussi un Montréalais, comme William Shatner. J'aime ce petit détail qu'ils ont décidé, parce que William Shatner vient de Montréal, puis son frère dans la série, c'est aussi un acteur qui vient de Montréal.
C'est incroyable!
C'est le genre de petites informations sans utilité que j'aime. Donc, ils sont restés un peu fidèles au concept de départ. Là. Puis, si vous aimez Star Trek, vous avez un peu décroché de ça avec toutes les incarnations qu'il y a eu au fil des années, ben essayez-le. Strange New Worlds, moi, j'ai trouvé ça quand même assez bien. Hey, merci chérie, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre batch de séries qu'on va regarder cette semaine.
Qu'on ne sait pas encore c'est quoi.
On ne sait pas encore ce que c'est. Et alors, c'est ça. Ben, merci encore une fois pour
tout. Merci à toi.
On se retrouve bientôt. Ben, je reçois aujourd'hui Annabelle Moreau qui va venir nous présenter une nouvelle plateforme pour les auteurs, les autrices, les lecteurs, les lectrices, pour que tout ce beau monde-là se rencontre. Ça s'appelle Pavillon. Mais d'abord, Annabelle, vous la connaissez. Bonjour d'abord.
Bonjour,
Annabelle,
Steve.
Bienvenue. Et je vous annonce que ça fait 7 jours que tu n'as pas fumé.
Exactement. Ça se passe bien quand même.
Ouais.
Oui, ma voix est plus claire, je l'espère.
Ben bravo. Annabelle, tu as une carrière prolifique dans le monde, je dirais que ta carrière dans le monde des communications, barre oblique, monde littéraire.
Ouais.
Depuis une douzaine d'années, tu as travaillé à la Fondation Métropolis Bleue, tu as travaillé à l'émission, la défunte émission Lire à Art TV.
Oui.
En janvier 2017, tu as aussi été nommée rédactrice en chef du magazine Lettres québécoises.
Tout à fait,
le magazine que tu as revirée de bord complètement.
Oui. Dans les revues culturelles, il se passe beaucoup de choses dans les dernières années. Puis à l'aide québécoise, c'est un terrain de jeu exceptionnel. Ouais. Donc, j'en suis très contente. Effectivement, je travaille depuis plusieurs années dans l'espace qui existe entre la littérature et les médias. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses et de liens à faire avec tout ça. Mais j'adore les deux milieux. Je ne pourrais pas vivre un sans l'autre. Mmh. Donc,
on se connaît depuis quoi? Une dizaine d'années.
Quand même.
Puis je me rappelle, quand je t'ai connu, tu écrivais donc pour Lettres québécoises des recensions,
des entretiens avec des auteurs. J'étais une jeune journaliste et tu m'as notamment formée sur plein de choses. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, donc ça a été la bonne école avec 37e Avenue, je dirais.
Bon, je n'ai pas fait d'école de journalisme non plus, donc on est tous des amateurs.
Oui,
aujourd'hui.
Voilà.
Voilà. Depuis quelques jours, tu as lancé pavillon.ca, qui est... Ben, présente-nous un peu ce que c'est ce projet-là pour ceux qui ne connaissent pas ça.
Oui, pavillon au pluriel.ca, c'est une plateforme numérique, littéraire, qu'on a lancée avec deux autres personnes. Donc, on est un trio. Bon, il y a moi, il y a Myriam Comtois, qui est une relationniste de presse très connue dans le milieu littéraire et culturel. Il y a aussi Marie Lamar, qui est une éditrice. Donc, à nous trois, on a remarqué que dans le milieu, justement, il y avait un espace à combler entre, disons, les maisons d'édition plus traditionnelles et les revues culturelles. Mm-hmm. Quelque chose qui se passerait sur le web, quelque chose qui serait peut-être de l'ordre de, peut-être du plus spontané, du laboratoire, de l'exploration. Beaucoup d'écrivains, d'écrivaines, d'artistes nous parlaient qu'il y avait besoin d'un espace pour expérimenter des choses. Donc, on a imaginé Pavillon, qui est, bon, une plateforme en ligne où on retrouve des projets. Nous, on les appelle les feuilletons.
D'accord.
Parce qu'on souhaite que les écrivains, écrivaines produisent, en fait, avec une périodicité qui est déjà préétablie, donc une fois par semaine, une fois par deux semaines ou une fois par mois pour bien développer une relation avec les lecteurs, lectrices. Donc, quand les gens se rendent sur la plateforme de Pavillon, ils peuvent s'abonner à des projets et à des auteurs. Et en fonction de la périodicité, ils reçoivent directement dans leur courriel des textes de création. En ce moment, il y a de la nouvelle, de la poésie, il y a des textes plus suivis, mais il y aura éventuellement aussi de la chronique, on voudrait des arts visuels, de l'audio.
Ah oui.
On veut ouvrir à plusieurs formes d'art. Et ce qui est intéressant, je pense, sur Pavillon, c'est que c'est des œuvres inédites, donc nouvelles, de, par exemple, d'auteurs qu'on n'a jamais lus ou d'autrices qu'on connaît déjà. Par exemple, en ce moment, la semaine dernière, Patrick Sénécal a lancé un projet chez nous. Il s'essaye à un nouveau genre, donc l'autofiction. Donc, ça nous permet de rencontrer des artistes, mais d'une manière différente et d'expérimenter. Et tout ça pour une somme de soit 2 ou 4 $ par mois. Donc, c'est très peu cher pour avoir des créations inédites directement chez soi.
Ça ressemble un peu à l'initiative qu'il y avait eu, je pense, il y a plusieurs années, là, Marie Laberge. Elle avait fait comme...
Oui.
Elle envoyait des lettres.
En fait, c'est ce lien-là, la même chose que nous, on veut développer, c'est-à-dire directement entre les créateurs et les lecteurs, lectrices, qu'il n'y ait pas nécessairement d'intermédiaires. J'adore les librairies, mm-hmm. bien sûr. J'adore les maisons d'édition, mais c'est chouette aussi de pouvoir consommer de la culture, consommer des arts, même si j'aime pas trop le mot consommer, c'est avoir ce lien-là directement avec le créateur, la créatrice. Donc, c'était un modèle qui existait un peu aux États-Unis, mais qui n'a jamais été testé ici au Québec, au Canada. Donc, nous, on a travaillé vraiment avec des créateurs d'ici, des designers d'ici pour créer une plateforme vraiment adaptée à ce que nous, on pense être des nouvelles méthodes de lecture, finalement.
Tu dis que ça ressemble un peu à quelque chose aux États-Unis. Mm-hmm. Moi, je connais Substack.
Oui,
est-ce
exactement.
Est-ce que c'est un peu de ça qu'on parle?
Okay. Substack, Patreon, on peut donner de l'argent à chaque semaine, à chaque mois à des créateurs qu'on aime pour qu'ils continuent à faire leur travail et ils nous envoient en contrepartie du contenu exclusif et nouveau. Donc, nous, l'objectif, puis c'est de là où vient le nom aussi, Pavillon, c'est de créer une communauté. Mm-hmm. Pavillon, c'est l'ouverture vers une communauté de lecteurs, lectrices, puis on souhaite élargir ça, on va faire des événements, on aimerait faire des résidences de création, on aimerait être présent dans des événements littéraires documentaires aussi qui existent déjà. Donc, on teste vraiment ce nouveau modèle-là. Puis pour le moment, on est extrêmement heureuse de ce qui se passe parce qu'il y a une très bonne réaction. Puis, puis c'est le fun de voir les gens s'emballer pour des projets nouveaux et les essayer et y aller vraiment. Là.
Tu nous parlais un peu des auteurs. Bon, tu nous as parlé de Patrick Sénécal. Bon, pour l'avoir lu, lui, ce qu'il propose, c'est... Et si toutes les histoires inventées depuis toutes ces années par Patrick Sénécal étaient inspirées de sa propre vie?
Exactement.
Donc, il se met en scène un peu là-dedans. Quels sont les autres auteurs qu'on retrouve sur Pavillon actuellement?
Mais pour le moment, en date de la fin de juin, en ce moment, on a 14 projets différents. On a, par exemple, un très jeune auteur, que c'est sa première création, Antoine Lucier, donc qui est plus dans le journal, l'écriture, il fait de la poésie aussi. On a Roselyne Lambert, une poète qui nous fait des cartes postales un peu de différents endroits qu'elle a visités dans le monde, notamment en Europe du Nord, avec de la photo. On a Sophie Voyot qui nous parle de sa jeunesse dans ce qui est plus un récit. J'aime beaucoup aussi, on a Catherine Voyer-Léger qui est déjà une écrivaine qui était très présente dans ce qu'on appelait avant les blogs, donc qui maintenant teste un peu son nouveau projet d'essai. Donc elle se consacre à des figures féminines de la culture pop qui l'ont influencée. On a Marie-Cécile Labrèche, qui est une des nouvellistes québécoises que je préfère, avec un humour extrêmement grinçant. Mélissa Véro aussi, qui nous fait de l'autofiction. Donc, il n'y a
pas de genre. Là.
Il y a pas de genre. Il y a de l'horreur, de la poésie, de la nouvelle, du récit. En fait, c'est ça l'objectif. Puis tout ça, en fait, à Pavillon, il n'y a pas de case. Il y a de l'espace pour partager, pour lire, pour découvrir ensemble. Puis là, on a lancé une première cohorte de 14 projets, 14 auteurs, mais il y en aura certainement deux ou trois par année, des cohortes comme ça, où on pourra découvrir différentes plumes. Mais comme je le disais, on souhaite aussi, on aimerait ça aller dans le balado, on aimerait ça aller dans la création visuelle. Donc, notre plateforme a été créée pour accueillir différents genres. La bande dessinée, par exemple, on n'en a pas encore. On a approché des gens en ce sens-là. Donc, on souhaite vraiment qu'il y ait ce lien-là direct entre les créateurs, créatrices et les lecteurs, lectrices dans tous les genres. Et puis, c'est ça. Pour le moment, on s'abonne à un auteur. Mais quand il y aura plus d'auteurs...
Pour avoir des bouquets d'auteurs.
Des bouquets, d'ailleurs. Ouais. Ben, on l'essaie, là, pour cette semaine, pour la première fois. On a fait une promotion. 4 auteurs, 4 mois, 44 $. Écoute. C'est notre première promotion à vie, on l'essaie. Notre premier bouquet
ça
d'auteurs, d'autrices. Oui, tout à fait.
Ben, merci, Annabelle. Allez voir ça, pavillon.ca, ça a l'air bien intéressant. J'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer, toute cette idée-là, parce que, bon, réinventer le modèle d'affaires pour le monde de la culture, c'est pas évident. Vous essayez quelque chose de nouveau, j'espère que les gens vont embarquer. Je vous souhaite la meilleure des chances. Comme je t'ai dans le petit studio aujourd'hui, Annabelle, je voulais, puis que tu es une experte en livres et en médias, je voulais qu'on discute un peu de ça aussi. Récemment, donc, on a entendu que la seule émission littéraire à la radio était retirée. Plus on est fou, plus on lit. C'est pas la première fois. En fait, ça a encore créé une sorte de levée de bouclier de l'industrie en disant, bon, on met encore la hache dans une émission littéraire. Comment ça se fait que les émissions littéraires ont autant de difficultés à se trouver une place, je dirais, une pérennité dans les médias? C'est toujours à recommencer. As-tu une réflexion là-dessus?
J'en ai plusieurs.
Commencer par la première.
Ouais, Plus on est de fous, ça faisait 11 ans que c'était là. Évidemment, c'était un pilier dans le milieu. C'était une émission quotidienne. Donc ça, c'est parler de livres à chaque jour. C'était très important. Ouais. Tu as dit que c'était la seule émission littéraire. Il y en a d'autres. Sauf que, bon, évidemment, c'était la seule émission littéraire... à la radio d'État. Donc, c'est ça qui choque.
J'oublie les émissions littéraires à Choix FM.
Très récemment, l'émission littéraire à Québec à la radio, Julie... oh mon Dieu, je vais dire son nom tout croche, mais bon, si vous irez voir sa page, elle s'appelle Julie Lit au lit.
Julie Lioli.
Julie Lioli. son émission s'appelle Les bouquins d'abord. Elle a proposé, justement, parce que plus on est de fous, plus on lit, quittait les ondes. Elle a proposé une liste de toutes les autres émissions littéraires qu'il y avait. Il y en a à CIBL, à Choc FM. C'est sûr que ce sont des émissions avec moins de moyens, faites de manière plus artisanale, mais qui sont aussi extrêmement intéressantes. Mais pourquoi on lève les boucliers à chaque fois? Pour quand ça quitte les ondes à Radio-Canada, on a peur de plus parler des auteurs. On se demande pas pourquoi il n'y a pas d'émission juste de cinéma, juste de danse, mm-hmm. juste de théâtre, par exemple. On dirait qu'on positionne la littérature au-delà de tous les arts. Évidemment, moi, je fais ça parce que je suis là-dedans. C'est ça que j'aime. Je veux qu'on parle de littérature. Mais c'est qu'on a peur à chaque fois de perdre une partie de, je dirais, de notre identité culturelle. Au Québec, bien sûr, la musique est très importante, mais la littérature aussi, bon, le théâtre aussi, a fait partie de je dirais, de comment on s'est défini par rapport à nos institutions culturelles. L'arrivée de Radio-Canada, l'arrivée de l'Académie des lettres du Québec, on a créé un système qui est très, très centré sur la littérature, sur les écrivains, sur les écrivaines. Donc, de les voir perdre un peu, de tomber de leur piédestal. Et c'est toujours la même critique qu'on fait, c'est qu'on a peur après de tomber dans le divertissement puis qu'on fasse juste parler rapidement de livres. Mais comme tu le disais, c'est quelque chose qui est critiqué depuis. En ce moment, je suis en train d'écouter des archives radiophoniques, justement, de Radio-Canada, des années 70, 80, 90. C'est déjà quelque chose qu'on décriait, la perte de l'espace pour la culture, à la radio, à la télévision, mais notamment pour la littérature. Je pense qu'on en entend parler beaucoup aussi parce que les littéraires sont des gens de mots. Donc, prennent la parole, s'insurgent sur les médias sociaux, prennent les plateformes pour dire que c'est incommensurable, qu'on peut pas faire ça. Donc, c'est à la fois des gens qui savent s'exprimer, qui porte le flambeau, et à la fois, on a peur toujours que ça soit une pente glissante de la culture au divertissement.
Est-ce qu'on parle bien de livres dans les médias, selon toi? C'est vraiment ton avis.
À la télé, non.
Non?
Non.
On en parle, à tout le monde en parle.
On en parle, à tout le monde en parle. Puis je trouve ça intéressant que depuis toujours, ils aient fait... depuis toujours. On peut les compter sur les doigts de quatre mains et corps, les écrivains qui ont été là. Bien sûr, il va y avoir des essayés. Je pense à, par exemple, Alain Deneau, qui va être invité de manière plus fréquente. Mais... Je suis contente, je suis heureuse quand il y a des écrivains et des écrivaines sur des grands plateaux comme ça, mais je ne considère pas que c'est vraiment la place pour ça.
Si tu avais inventé, toi, je te lance dans un exercice de créativité, oui. Si tu avais inventé l'émission littéraire parfaite, ce serait quoi? Ce serait quoi la formule gagnante?
Des écrivains dans un ring, des écrivains dans la boue. Non, j'aime bien, il y a une formule...
Non, mais je pensais à une compétition littéraire. On a des compétitions culinaires.
Culinaires, littéraires.
Ça marcherait-tu?
Bien, tu sais, moi, je trouve les écrivains, les écrivaines...
Un roman presque parfait.
Un roman presque parfait. mais je les trouve bons en combat. Donc, par exemple, justement, plus on est de fous, plus on lit. Récemment, il y avait le combat des livres. Ça, je pense que c'est un bel espace pour faire parler de livres puis d'utiliser aussi la parole, le débat et tout ça. Moi, j'aime bien une émission en France que j'écoute régulièrement, à la télé, qui est aussi disponible en balado, qui s'appelle La Grande Librairie. Mm-hmm. Donc, qui est inspirée de l'émission Légendaire apostrophe. Donc, c'est un grand plateau qui dure 3 heures. On met des écrivains, des écrivaines là-dedans, puis on leur pose des questions jusqu'à temps qu'ils pleurent, qu'ils craquent, qu'ils s'engueulent. Ça me plaît.
Ah oui?
Oui, ça me
plaît. Tu m'as parlé aussi d'un balado bookmaker, aussi français, malgré le titre.
Oui. Bien, ça, c'est un balado d'entretien. Je pense que la littérature, dans les médias en général... Je suis très contente qu'elle soit présente, qu'on en parle, mais mon problème, c'est toujours la durée. Je trouve, puis c'est la même chose pour le cinéma, le théâtre, la danse, c'est que ça prend du temps. Parler d'un livre, parler d'une pièce de théâtre en 5 minutes, pour moi, oui, ça peut donner envie d'y aller, mais pour aborder des enjeux de fond sur la création, sur l'écriture, ça prend du temps. C'est pour ça que moi, par exemple, on parlait de Bookmaker, c'est toujours 3 épisodes ou 4 épisodes avec un écrivain. Donc, on a l'occasion de passer plusieurs heures en tête-à-tête avec quelqu'un. Même chose avec ce que je disais, la grande librairie ou Apostrophe, qui sont des grands plateaux où on prend le temps.
Mais Bookmaker, ce que tu m'avais dit, c'est qu'on on parle vraiment de la pratique. De
oui, bien, de la comment poutine, on du travail, c'est d'écriture. Ça. Ça, moi, j'aime bien parce que, bien sûr, on aime ça parler des thèmes, de la manière que ça nous a, dont les auteurs ont été inspirés, mais on parle peu de l'écrivain, de l'écrivaine au travail, assis à sa table. Qu'est-ce qu'il fait comme recherche? Comment il fait pour vivre? Est-ce que son quotidien, c'est juste des demandes de subventions, des choses pas payées? Mm-hmm. Il y a tellement d'aspects qui sont intéressants là-dedans, qui, en tout cas, qui, moi, me parlent beaucoup et qui font partie, je trouve, de l'écosystème d'une œuvre. Et c'est pas juste la réception, bien que la réception, la critique, par exemple, le débat, c'est très important, mais j'aime ça aussi aller en amont. Même chose quand on regarde des making-of de films, on adore, mais ben oui. La même chose en littérature, c'est exceptionnel aussi.
Moi, j'avais lu On Writing de Stephen King, qui est exactement ça. C'est Stephen King qui explique comment il écrit. Si vous écrivez dans la vie, que vous avez l'occasion de mettre la main sur ce livre, c'est moi, en tout cas, je trouvais ça vraiment éclairant. On parle de littérature dans les médias comme sujet de magazine ou de bon. Mais il y a aussi la littérature dans les séries, dans les films, s'inspirer de notre littérature pour faire de la fiction. On en fait un peu au Québec, pas tant que ça, si on se compare à ailleurs, mais on risque d'en faire de plus en plus. Récemment, j'ai vu là, que la SODEC avait financé, je pense que c'est 15 de projets inspirés d'autant de livres québécois. Il y a Simon Boulris là-dedans, il y a Biz, il y a toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'on ait cet intérêt-là de dire, ben, on va donner de l'argent pour essayer de faire vivre les univers qu'on crée dans les livres? À la télé.
Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est sûr que cette année, par exemple, on parlait de séries télé adaptées, mais bon, il y a eu Maria Chapdelaine par Sébastien Pilote, pardon. Je pense qu'avant, on le faisait davantage. J'écoutais cette semaine, justement, dans le cadre de notre projet, Anne Hébert parlait de la scénarisation de son roman Kamouraska. Puis elle expliquait, l'animateur lui demandait comment elle avait fait pour transposer l'un à l'autre. En fait, c'est pas une transposition, c'est vraiment une réécriture. On doit imaginer vraiment des personnages de chair, de corps qui vont incarner des univers. Mais je pense que ça devrait être... Je sais pas si c'est une nouvelle initiative, cela par la SODEC de financer.
Moi, j'essaie de trouver l'information.
Je veux dire, c'est... je trouve que c'est une excellente initiative. Anne Hébert disait... qu'on le faisait pas assez parce que les cinéastes préféraient partir de leur propre univers plutôt que de s'inventer dans un nouvel univers. Mais là, ce que je vois avec la liste qu'on a sous les yeux, c'est qu'il y a beaucoup, qu'il y a plusieurs des adaptations, des scénarios qui sont signés par les écrivains eux-mêmes et qui vont ensuite travailler sur la production.
Qu'est-ce qu'il y a comme projet là, qu'on va
voir?
Il y a
l'ouvrage de Fanny Nebel, Mukbang. Je suis très hâte de voir ça. Je ne sais pas si tu avais vu cet ouvrage-là.
Pas du tout, mais...
Steve, c'est sur... ça rapporte beaucoup avec le ASMR et la nourriture. Et ce livre-là comportait de multiples...
L'ASMR.
Exactement. Et ce livre-là comportait de multiples codes QR dans la lecture qui nous amenaient vers d'autres univers. Donc, c'était déjà une expérience de lecture franchement déroutante. Je vois les filles de Caleb.
Oui, ça, je pense.
À nouveau?
Oui, ils vont le refaire pour Netflix.
Ah oui,
ouais,
d'accord.
En fait, Netflix a acheté une série québécoise et ça va être Les filles de Caleb. Nouvelle génération.
Nouvelle génération. Ouais.
C'est ce que je me dis aussi. Mettons, eu égard là, cette liste-là de projets qui sont financés, toi, dans ce que tu as lu de littérature québécoise, est-ce que ça t'est arrivé ces dernières années de se dire hey, « ça, ce serait bon, ce livre-là, il me semble que je verrais ça à la télé. »
Ah oui, il y en a plusieurs que ça nous frappe directement. L'année passée, j'ai eu une révélation. Donc, l'ouvrage d'un premier écrivain qui a gagné le prix Robert Clich, sur lequel j'étais jury. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de « Tout est horrible » de Paul-Serge Forêt, qui est un médecin dans la vie. Donc, ce roman-là qui se passe sur la côte nord à Trinité, je crois. Donc, il est extrêmement déjà visuel, loufoque, mm-hmm. et qui se rapproche un peu de l'écriture de John Irving. Donc, tout de suite, pour moi, c'était quelque chose qu'on devait adapter. Et là, je pense pas que je fais de scoop, mais il y a déjà des gens qui ont mis la main sur ce scénario-là. Ça, c'était vraiment, vraiment très exceptionnel. Je me demande encore pourquoi personne a adapté les ouvrages de François Blais. Par exemple, un de mes écrivains favoris, fétiche, qui est décédé d'ailleurs récemment. Tragiquement récemment. Donc, des univers extrêmement sordides et lugubres, toujours dans le coin de la Mauricie. Moi, il me semble que ça me parlerait.
On m'a déjà dit que La canicule des pauvres était en train de... C'est une brique, ça, là.
C'est une brique. Mais
c'est en train d'être
traité. C'est un très beau projet parce que ça se passe dans un immeuble... il me semble bien, sur tout un été à Montréal, dans une canicule, et tout le monde vit un peu dans sa petite boîte à rats de manière extrêmement étouffante. Donc, ça peut créer des huis clos très, très intéressants. Mais pour les films, je comprends, mais là, des séries télé, je suis vraiment, vraiment intéressée. J'ai hâte de suivre ces
projets-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on risque d'en voir de plus en plus ces prochaines années. Écoute, merci Annabelle. On va passer au questionnaire de Proulx.
Wouhou!
Le questionnaire de Proulx! Bon, ce que c'est le questionnaire de Proulx, c'est très simple. J'ai envoyé à Annabelle une série de questions pour essayer de décrypter un peu ses habitudes télévisuelles, médiatiques. Une série que tu as tatouée sur le cœur, tu m'as répondu, Twin Peaks.
Mm-hmm. Pendant la pandémie, j'ai réécouté le tout. Je me suis abonnée à toutes les pages Instagram que je pouvais. Il y a de très bons mèmes de Twin Peaks pour...
J'ai écouté le film, mais j'ai pas écouté la série. On parle bien de la série, ouais.
Faite par David Lynch. Ouais. D'ailleurs, je pense que la première série a 22 épisodes. C'est pas des petites séries à 4 micro-épisodes, là. On a le temps! C'est très, très bon. Ça a très bien vieilli. En tout cas, moi, je trouve que ça a très bien vieilli. Il y a encore extrêmement de références dans plein d'émissions, que ce soit les Simpsons ou autres. Mm-hmm. C'est une série culte et c'est une série que j'avais adorée à l'époque et que j'ai réécoutée. La deuxième saison, toujours de 22 épisodes à peu près, est un petit peu moins bonne, mais quand même, il ne faut pas bouder son plaisir. C'est très, très, très bizarre. C'est les mêmes personnages, les mêmes acteurs. Et puis, ça part d'une série classique. Là. C'est dans une petite ville américaine. Le premier épisode, il y a une jeune femme belle et jolie et blonde qui est retrouvée morte sur la plage. Et bon, ensuite, le FBI arrive, les policiers, les forces occultes. Tout le monde se mêle de ça. C'est compliqué, puis c'est le fun.
Une série que tu n'as pas encore vue, puis ça commence à devenir gênant, The Sopranos. Tu n'avais pas vu ça?
Non, je ne sais pas.
Je ne l'avais pas vu, moi non plus, je l'ai vu récemment.
Ben c'est ça. J'ai commencé ça aussi dans les deux dernières années. Puis
moi, j'ai arrêté après 15 minutes. Là.
C'est vrai? Ah non,
la musique, je n'étais pas capable.
Ah non, moi, j'adore. Je remets le générique. Tu sais, on peut faire sauter l'intro à chaque fois. Moi, je l'écoute encore.
Oui. Oui, la musique d'introduction. Oui. Mais pendant la série, aujourd'hui, on ne met plus de musique, l'espèce de musique générique comme ça. Moi, ça m'agaçait.
J'adorais ça. C'est comme c'est un peu un retour dans le temps. Là, j'avais l'impression d'être une adolescente dans le sous-sol de chez mes parents puis de regarder des mafiosi du New Jersey complètement détraqués. Puis ça me fait beaucoup rire.
Ça t'arrive souvent de errer sur YouTube?
Oui, pas mal à tous les jours, je
dirais. Pas mal tous les jours,
Pas mal tous les jours. Mais surtout pour de la musique, moi. Ouais. C'est ça, je le pars, puis je regarde pas nécessairement. Je vais partir avec des chansons, des tunes que j'aime, puis je laisse rouler. Puis quand j'entends quelque chose qui me parle, ben là, je lève les yeux. Mais c'est surtout pour de la musique, tu sais. Pas des vidéoclips, pas des films, pas des... C'est dans la musique que je vais me perdre, surtout. Ouais.
D'accord. Tu m'as présenté... je t'ai demandé tes balados de prédilection. Mmh. Tu m'en as sorti une bonne liste. On en a parlé déjà. Tu nous as parlé de la... Bookmaker. Il y avait le libraire. Je me souviens plus.
La grande librairie.
Des balados québécois, peut-être?
Ben moi, je suis tombée. Ben je le connaissais déjà, Dominique Tardif, deviens-tu ce que tu as voulu? Je trouve que c'est un des meilleurs balados d'entrevue. Je parlais de temps long avec des gens tout à l'heure. Mm-hmm. Des fois, il va jusqu'à 1h30, 1h45. Moi, je pourrais l'écouter 3h. C'est un 1 à 1, il prend le temps, on fait des blagues. Moi, ça me parle complètement. Ouais.
C'est pourtant très simple hein, comme formule. Oui.
C'est exactement ce qui se passe en ce moment, on parle.
Exactement, on jusqu'à ce qu'on soit tanné, puis c'est tout.
C'est ça. Récemment, j'ai écouté le balado tombé sur Michel Brûlé,
ouais.
Qui a été réalisé par Marie-Michel Giguère, justement, Radio Canada, qui a été une collègue à moi. J'ai beaucoup aimé ce balado-là.
On va recevoir India, d'ailleurs.
C'est vrai.
Oui, la semaine prochaine.
C'est, je pense, le premier balado, en tout cas, le premier moment où on aborde la question des dénonciations, des abus de pouvoir dans le milieu littéraire. Donc, je pense que c'est un jalon très important pour notre secteur, finalement. Donc, et Michel Brûlé était une...
Moi, j'ai adoré sa phrase. Elle dit, quel genre de vie faut avoir vécu pour qu'on ne croie pas en ta mort?
Ouais.
Parce que c'était ça.
Pour que tout le monde doute.
Exactement.
C'est très bizarre parce qu'on s'est mis à s'écrire quand sa mort plein de gens m'ont écrit. Tu penses que c'est vrai? Tout le monde doutait. C'était très bizarre. Et India Desjardins, dans ce balado-là, elle se pose pas juste la question est-ce que c'est vrai ou pas qu'il est mort, mais surtout, elle revient sur sa vie, puis sur comment des personnes, des gens très puissants, là, on peut parler de Weinstein, par exemple, ou bon, il y en a d'autres, des gens qui étaient à la tête de petits empires, dans son cas, à Michel Brûlé, puis comment, pendant plusieurs années, ils ont pu exercer un pouvoir extrêmement malsain sur beaucoup de gens.
Moi, je le compare beaucoup, parce qu'on ne veut pas trop parler de Michel Brûlé, on le connaît.
Oui.
moi, je le compare, je trouve qu'il ressemble à Donald Trump.
Ouais,
c'est un Donald Trump de l'édition
québécoise. De l'édition Québec, puis il y a eu des succès, mais bon, félicitations à India Desjardins. Allez écouter ça, c'est un très bon balado québécois récent qui vient d'être fait. Sinon, j'aime bien, il y a Synthèse aussi que j'aime bien. Une fois de temps en temps, je me permets un petit balado de true crime, puis quand c'est au Québec, c'est encore plus le fun, parce que c'est plus proche de nous encore, donc ça peut faire encore plus peur.
T'attends impatiemment The Crown?
Oui, j'ai moi puis ma sœur, ma jeune sœur. Bonjour, Sarah. On a une fascination, je dirais, malsaine pour la reine Élisabeth. Donc, The Crown, on aime bien ça.
Vas-tu? Est-ce que c'est la reine Élisabeth qui t'intéresse ou la monarchie britannique?
Non, la reine Élisabeth, toutes les autres, je les aime pas.
Ah, c'est ça, hein? Moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais je sais pas pourquoi.
Elle a une envergure,
elle
a une prestance, elle a une dignité. Puis, tu sais, je veux dire, j'aime pas la monarchie britannique. Je suis pas mal... j'aimerais pas mal ça que la reine et ses représentants quittent le Canada, pas le Canada, mais le Québec un jour. Mais Élisabeth, elle a quelque chose. Mais après ça,
les autres
ensuite...
Penses-tu que ça... Je sais plus, on a une autre conversation, mais c'est sûr que c'est dans les prochaines années que ça va se passer, parce que, bon, 96 ans...
Oui.
On prend pas une prochaine hypothèque, là.
Non, c'est ça. Ça fait à peu près 15 ans qu'elle est dans mon dépôt.
C'est ça, exactement. Madame Charmante, mais bon. The Crown, ça arrive en novembre.
En novembre,
prochain. Il va aussi y avoir... tu t'attendais la deuxième partie de Dune.
Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui. Encore, j'aimais, moi, la version de David Lynch, très bizarre, avant, de Dune.
Oui.
Mais là, j'ai... Au départ, je voulais pas l'écouter, parce que je voulais pas... tomber dans un autre univers, mais j'ai été happée complètement. Je l'ai écouté deux fois en deux jours.
Moi, j'ai trouvé ça « wow
».
Puis après ça, c'était « bon, what's next? » Ça m'a pas... J'ai trouvé que visuellement, c'était un grand film, mais je trouvais qu'il y avait tellement de choses qui se passaient, tellement de personnages
Encore une fois, moi, j'aurais fait 6 épisodes avec ça.
Ça aurait été une
bonne série,
effectivement.
On prend pas le temps tout le temps. Il faut prendre le temps. Je sais que ça coûte des millions, tout ça, puis que c'est long, mais je persiste et signe en disant qu'il y a des choses qui doivent prendre du temps.
Bon. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Hey, merci beaucoup, Annabelle.
Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Ben voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. D'ici à notre prochain rendez-vous, on va surveiller cette semaine le retour de la série Only Murders in the Building. C'est sur Disney+, avec Martin Short et Steve Martin. Et il y aura aussi le dernier volet de la quatrième saison de Stranger Things qui va arriver le 1er juillet sur Netflix. En entrevue, on aura l'autrice India Desjardins qui viendra nous parler de sa série balado Tombé sur l'éditeur Michel Brûlé. Les écrans est une production de l'agence de contenu 37e Avenue. Mon nom est Steve Proulx et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre épisode.